Mesdames et messieurs, nous allons commencer la plénière des rencontres de l'action internationale intitulée « L'action internationale des collectivités territoriales, les singularités de la coopération décentralisée ». Je vous remercie par avance de bien vouloir vous installer. Si toutefois vous souhaitez poursuivre les échanges, je préférerais qu'ils se passent de façon la plus calme possible, voire en dehors de cette salle. Alors, l'action extérieure des collectivités territoriales, je vais commencer par quelques mots d'introduction, a longtemps été synonyme de coopération décentralisée. Qu'est-ce qu'on entend par coopération décentralisée ? C'est somme toute quelque chose de très simple. Deux collectivités territoriales ou autorités locales qui décident de contractualiser pour développer ensemble un programme, un projet. Dit autrement, deux institutions, simplement, qui travaillent ensemble sur un sujet qu'elles ont identifié. Et puis les choses ont progressivement évolué assez rapidement. Très rapidement, effectivement, les collectivités ont commencé à travailler avec les acteurs de leur territoire, commencé par les associations, bien souvent, mais pas seulement. Les acteurs de représentatifs des diasporas, les établissements scolaires, parfois les entreprises, les hôpitaux. Le cercle s'est très rapidement élargi dans le cadre de leur coopération internationale. On a évolué alors du concept de coopération décentralisée à celui d'action internationale des collectivités territoriales. C'est aujourd'hui celui qui s'est imposé, et d'ailleurs que nous-mêmes, à Cités Unies France, nous avons repris dans les rencontres de l'action internationale des collectivités territoriales. Et puis, dans une temporalité que je qualifierais de plus récente, on a progressivement parlé d'internationalisation des territoires. Et on élargit encore la compréhension de la pratique avec ce concept-là, puisque au-delà de la collectivité et des acteurs qu'elle soutient, cette acception d'internationalisation des territoires souligne la pluralité des acteurs engagés dans une action internationale, dans des interactions plus ou moins denses, ou parfois complètement absentes. Dit autrement, certains acteurs du territoire agissent complètement en dehors de la collectivité, et tout ça révèle le foisonnement et la dynamique de l'internationalisation des territoires. Ces évolutions, vous, collectivités territoriales, élus, praticiens, ces évolutions de l'internationalisation des territoires, vous les vivez, vous les expérimentez dans vos pratiques. Et avec cette montée en puissance de la notion de territoire, notamment, on a souhaité se poser la question, pendant cette plénière, de la place de la collectivité territoriale. Elle était initialement dans les pratiques au départ de l'internationalisation. Aujourd'hui, quel est son rôle dans cette internationalisation d'elle-même, de ses acteurs, et des acteurs qu'elle connaît finalement beaucoup moins. Donc pour cela, nous avons sollicité, pour répondre à toutes ces questions, à ces évolutions de rôle avec les propres acteurs de son territoire, nous avons souhaité donner la parole à différents intervenants qui composent le panel de cette plénière et que je remercie très chaleureusement d'être là avec nous. Chacun a un regard différent sur la question, on partira du prisme de chacun, du regard de chacun. Parfois, on restera en France, du côté collectivité, on aura la chance d'aller du côté du Sénégal aussi, du côté du Ziguinchor, pour interroger leur propre réalité sur ces questions-là. Et puis, on regardera aussi côté partenaire institutionnel et financier des collectivités avec l'AFD et la délégation aux collectivités territoriales et à la société civile. Donc je remercie encore très chaleureusement l'ensemble des acteurs que je représenterai un petit peu mieux au fur et à mesure que je leur poserai les questions. Et j'ai souhaité aussi qu'on commence cette session en reprenant une étude portée par les RRMA sur l'action extérieure des collectivités territoriales. Nous reviendrons également ensuite sur la question des RRMA qui pourra nous livrer son propre territoire, son propre sujet, sa propre division des choses. Mais pour introduire cette table ronde, j'ai donc demandé à Rokaya Diane, qui est chargée de mission observatoire à Sceaux Coopération, de nous faire un petit retour sur cette étude ACTER, qui est une étude assez complète. sur la façon dont se déploie l'action internationale des collectivités territoriales en partant de votre réalité, celle des RRMA, donc des localement, territorialement, pour que vous puissiez nous partager non pas l'ensemble de l'étude que je vous invite à regarder quand vous le pourrez, je crois qu'elle n'est pas encore publique mais elle le sera bientôt, mais nous apporter là maintenant quelques enseignements issus de cette étude qui permettront à chacun des panélistes de se situer par rapport aux questions qu'on a soulevées précédemment. Donc Rokhaya, je vous laisse la parole pour nous donner quelques enseignements issus de cette étude.
Merci beaucoup Virginie. Bonjour à tous. Merci à CUF pour cette invitation à cette rencontre sur l'action internationale des collectivités territoriales. Donc, je suis chargée de mission observatoire au sein d'un réseau régional multi-acteurs, un RRMA. Donc, ce sont des réseaux qui accompagnent les dynamiques de coopération et de solidarité internationale dans les régions. Et dans le cadre de notre mission d'identification des acteurs, des dynamiques, nous avons fait une étude entre 2023 et 2024 sur l'action internationale des collectivités territoriales. Donc, c'est une étude qui a été menée sur 8 régions. On a eu 122 collectivités qui ont répondu, donc des collectivités de taille et de nature différentes, donc allant des régions, des départements, des communes, des intercommunalités, des métropoles et des syndicats mixtes. Donc, l'objectif de cette étude était de pouvoir identifier les types d'actions qui sont menées par les collectivités, avec quels moyens, donc les moyens humains qui sont mobilisés, les types de financements qui sont mobilisés, quels sont les partenariats, les stratégies qui étaient mises en place, mais aussi les freins et les besoins qui ont été identifiés par ces collectivités pour mettre en place des actions de coopération et de solidarité internationale. Et donc, l'étude a permis de mettre en exergue plusieurs points saillants. Le premier, c'est la montée en puissance des territoires. Donc, on a des collectivités qui sont très, très actives dans la diplomatie climatique, qui participent auprès des États et des grosses ONG dans des sommets internationaux sur les questions de développement durable. Et ceci a été possible grâce notamment au soutien de l'État à travers différents dispositifs, mais aussi grâce à l'évolution du cadre légal et juridique qui permet de mettre en place de plus en plus d'actions. Le deuxième point qui est ressorti, c'est en effet l'internationalisation des territoires dont Virginie parlait tout à l'heure. Le fait que maintenant, on va au-delà de coopérations décentralisées entre deux collectivités ou plusieurs collectivités, c'est tout un champ d'acteurs, un écosystème d'acteurs du territoire qui participent à ces coopérations, donc avec vraiment une dimension pluriacteur. Et cela permet une diversification des thématiques, des projets qui sont portés. Et donc, on a à peu près 50% des collectivités qui arrivent à mener des projets de coopération internationale, mais aussi des projets dans d'autres domaines. Donc, on a à peu près 68% des projets qui vont porter sur l'aide au développement, mais aussi des projets qui vont être plus des coopérations économiques. Donc, les collectivités ont un rôle de bailleurs aussi au sein des territoires parce qu'elles soutiennent les acteurs du territoire. On a 42% des collectivités qui ont des dispositifs de financement, donc à travers des subventions, des appels à projets. Il y a aussi la mise à disposition, une aide matérielle qui est apportée aux associations, aux structures du territoire pour faire la coopération internationale. L'autre point intéressant, c'est que les collectivités, au-delà des coopérations, donc des actions qui sont faites dans les zones d'intervention, qui en général, vous le verrez plus précisément, vont porter sur des 73% des coopérations vont se faire en Afrique. Donc, au-delà de ces actions qui se font à l'international, il y a aussi des actions de promotion et de sensibilisation sur les questions internationales au sein du territoire. Donc, on a 55% des collectivités qui vont mettre en œuvre des actions de promotion et de sensibilisation, des actions d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Et le dernier point important, c'était que les collectivités avaient aussi un rôle fédérateur, donc avec des partenariats, des synergies, des consortiums qui sont montés malgré les contraintes, et que 50% des collectivités qui avaient répondu avaient des partenariats entre collectivités ici pour pouvoir mutualiser et mener plus de projets. Et donc tous ces constats nous ont permis de dégager une typologie qui va nous permettre d'affiner l'accompagnement qui est fait auprès de ces collectivités, de mieux identifier leurs besoins en termes de renforcement de capacités, de mise en œuvre de projets. Et donc, on a pu dégager 5 catégories de collectivités. Donc, il y avait 3 catégories qui étaient des collectivités de petite taille qui fonctionnaient avec peu de moyens, sans service relations internationales, mais avec l'appui des élus. Donc, ces 3 catégories, principalement, donc, la première, on les a appelées des collectivités humanistes. C'était des collectivités qui ont pour principale motivation les questions de droits humains, qui vont porter des projets dans le domaine de l'accès aux services essentiels, des projets sur les questions d'égalité hommes-femmes. Et surtout, ce sont des collectivités qui vont beaucoup s'appuyer sur le tissu associatif de leur territoire pour faire ces coopérations avec peu de moyens. On a ensuite une deuxième catégorie qu'on a appelée les COSMINES. Donc, c'était des collectivités qui avaient pour principal objectif l'interculturalité et la cohésion sociale au sein de leur territoire. Donc, l'action internationale est un moyen de soutenir le vivre ensemble au sein de leur territoire. Donc, ce sont des collectivités qui vont beaucoup s'appuyer sur les réseaux diasporiques de leur territoire, donc qui vont faire des actions de coopération dans des zones, dans différentes zones d'intervention. La troisième catégorie, c'est des collectivités qui souvent n'ont pas de coopération formalisée, mais qui soutiennent la mobilité internationale. Donc, quelques actions d'appui à la jeunesse, à l'éducation, donc aux questions de citoyenneté mondiale. Donc, souvent, c'est des collectivités qui vont faire de petites actions et avec le temps, avec un peu d'appui, elles vont arriver à faire des coopérations plus formalisées dans d'autres domaines et plus tard faire des projets d'aide au développement. Donc ça, c'est les 3 premières catégories qu'on a constatées qui fonctionnaient avec très peu de moyens. Et les 2 dernières catégories, c'était des collectivités de plus grande taille qui vont plus mettre en place des projets d'appui institutionnel, de renforcement de capacités, qui vont être des collectivités bailleurs de la coopération internationale. Donc ces 2 derniers types, il y a le type qu'on a appelé climapart, parce que c'était des projets qui portaient beaucoup sur les questions de climat, de biodiversité, avec des coopérations techniques entre services. Et la dernière catégorie, la 5e, qu'on a appelée des astres. Donc, c'était vraiment de grandes collectivités avec beaucoup de moyens qui arrivent à mettre en place des projets, mais qui étaient plus axés sur l'accompagnement, le rayonnement du territoire, l'accompagnement des entreprises avec beaucoup de coopération économique. Donc, grosso modo, c'est les 5 types de modèles organisationnels qu'on a pu constater dans l'action internationale. Et en conclusion, je voulais souligner que cette action internationale ne doit pas être considérée comme une action distincte de la collectivité. Donc c'est vraiment toute une dynamique, une approche globale de l'ensemble des acteurs du territoire. Donc la collectivité, elle peut être impulseuse, elle peut être accompagnatrice, elle peut être bailleur, fédératrice, mais la coopération maintenant se fait de territoire à territoire. Et l'étude sera prochainement disponible sur nos sites et vous aurez les références.
Merci beaucoup, Rokhaya. Ça permet effectivement d'ouvrir le débat et peut-être certains panélistes ou même certains d'entre vous dans la salle, vous reconnaissez-vous déjà dans un des idéotypes que vous avez dressés. Après, on peut bien sûr interroger d'autres types de catégorisation, mais je trouve cette approche intéressante puisqu'elle restitue aussi la façon dont on peut observer des sédimentarisations de l'action internationale les plusieurs niveaux, les niveaux les plus élevés d'engagement de grosses collectivités comprennent forcément en leur base ce que vous avez évoqué sur les plus petites, mais les choses se sédimentarisent, s'accumulent pour pour ouvrir de plus en plus l'action internationale. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Nadia Pelfig. Donc, vous êtes vice-présidente en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'Europe et des relations internationales au Conseil régional d'Occitanie. Donc, vous avez entendu cette présentation. Elle vous a certainement parlé, peut-être à plusieurs niveaux. Alors, ce que je voulais vous poser comme question, c'était de savoir quel type de collectivité êtes-vous au niveau de la région Occitanie ? Quel rapport avez-vous aux acteurs de votre territoire ? Êtes-vous impulseur, ensemblier, révélateur, accompagnateur, observateur, chef d'orchestre ou inspecteur des travaux finis, si je veux pousser dans la caricature. Voilà, quel type d'acteur êtes-vous en région Occitanie ? Comment ce qui a été partagé peut vous inspirer ? Comment vous le déclinez ? Comment vous le recevez ?
Merci pour cette question. On est un peu tous là, sauf l'inspecteur des travaux finis, qui est le terme que je récuse. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour la présentation de cette étude. Ça me permet en plus de saluer la directrice générale d'Occitanie Coopération, Maïlys Daboville, qui est ici d'ailleurs aujourd'hui, qui est le RRMA de la région Occitanie, qui regroupe aujourd'hui sous son contrôle 185 adhérents, me semble-t-il, et qui assure notamment le rôle de première ligne lorsque, par exemple, nous lançons des appels à projets, dont un lancé sur l'eau, qui mobilise des acteurs du Sénégal, de la Palestine, du Maroc, et qui nous permet d'aller toucher un nombre d'acteurs plus important. Je vous répondais, on est un peu tout cela, parce qu'à la réalité, quand on est une région de la taille de la région Occitanie, on est plus grand que 12 pays européens. On compte 4600 communes dans une organisation française qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de collectivités, avec un point commun pour chacune, c'est qu'on a peu de moyens. Et un point commun, et que je regrette de dire ici, mais qui fait que le sujet international n'est pas la priorité des budgets qui sont votés dans les collectivités. Et nous le verrons de manière cruelle et cruciale dans les prochaines semaines, puisque nous sommes tous face à des réductions budgétaires importantes et que les dotations dont on bénéficiera plus vont impacter aussi, en première ligne, les sujets internationaux. Et pourtant, dans ce qui a été dit ici, dans le rapport qu'on a aux acteurs, sur un grand nombre de sujets, j'évoquais l'eau. Mais moi, dans mon territoire, et j'en connais d'autres qui sont touchés par les problèmes climatiques et sur la question du dérèglement climatique, ces dernières semaines ont démontré que sur la question de la gestion de l'eau, sur la question de l'atténuation, de l'adaptation, on a besoin de s'entraider et de tirer des enseignements et d'essayer de se doter de solutions. Et on ne pourra le faire que dans de la coopération mutualisée. Cette coopération, elle peut se faire à des échelons locaux, mais elle doit se faire aussi à des échelons internationaux, parce qu'il y a des solutions trouvées ici et là qui auraient tout intérêt à trouver des issues dans nos territoires. Et puis, quand on parle de la diversité des acteurs, il y a les acteurs de l'action internationale, mais les acteurs de la relation internationale, de l'action internationale en région Occitanie. C'est également les enseignants-chercheurs qui travaillent sur tout un tas de sujets et qui, avec des données scientifiques, nous éclairent sur les politiques publiques que nous devons mener et qui essaient d'avoir, évidemment, des coopérations internationales scientifiques. Chaque région accompagne aussi ses acteurs académiques pour attirer des hauts niveaux de scientifiques issus de territoires internationaux. La semaine dernière, j'ai inauguré la Cité internationale qui accueille des étudiants étrangers, rien que sur la seule ville de Toulouse, et je salue le maire adjoint de Toulouse. Nous avons 32 000 étudiants étrangers. Bref, les acteurs de l'international, ce sont nos PME, ce sont les filières qui sont animées, c'est l'aide au développement et les acteurs de l'aide au développement, mais c'est toute une variété d'acteurs qui justifie que dans chacune des politiques publiques d'une collectivité comme la région, il y a une stratégie internationale. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui seraient moins familiers du Code général des collectivités. Et je vous comprends. Il est demandé à chaque région d'établir en début de mandat une stratégie de développement économique, d'innovation. Et le deuxième I, c'est l'internationalisation. Il est demandé également aux régions d'établir des stratégies régionales en matière d'enseignement supérieur, de recherche, d'innovation et d'internationalisation. Et cela sous le contrôle, d'ailleurs, de l'État. Simplement, il faut qu'on ait la capacité de se donner les moyens de faire vivre ces réseaux, d'avoir le bon niveau d'expertise et d'appliquer la transversalité que chacun appelle de nos voeux, mais a bien du mal à mettre en œuvre. Alors oui, nous pouvons être financeurs à travers des appels à projets, mais même le succès de ces appels à projets repose sur la densité des réseaux tels que les RRMA et pour la région Occitanie et Occitanie Coopération. On peut également être des impulseurs d'ouverture d'horizons internationaux pour nos acteurs académiques ou pour nos acteurs économiques, mais là, il s'agit d'autres dispositifs, on y viendra peut-être. Bref, on ne peut pas avoir dans une collectivité comme seul budget dédié à l'international celui dédié au RI ou à la coopération. Il s'agirait d'avoir évidemment des actions dans l'ensemble des budgets et des bases de politique publique. Pour autant, la définition d'un budget relations internationales est toujours, et je pense que tous les élus en charge des RI l'éprouvent, est un défi pour en faire partager les objectifs et la nécessité à l'ensemble de nos collègues qui aussi, dans les responsabilités qui sont les leurs, font face à des réductions. Et donc, il faut démontrer en quoi c'est utile. Pas simplement au nom de la solidarité et de l'amitié absolument nécessaire entre les peuples dans un monde qui est balkanisé, fracturé et en guerre dans plein d'endroits de la planète. Pas simplement pour ça, parce qu'autrement, je crains qu'on en revienne à des expressions politiques qui ont été parfois de gauche, parfois de droite, parfois tronquées sur la misère du monde, mais qui fassent qu'on ne regarde pas comme il se devrait le sujet des relations internationales. Donc le positionnement de la région Occitanie, il est multiple, comme beaucoup de collectivités. Il est aussi dans la débrouille pour trouver les budgets et les ressources humaines nécessaires. Et il est surtout en coopération, parce que c'est la seule solution pour arriver à mener des projets d'envergure et qui soient utiles.
Merci beaucoup pour cette présentation relative à la région. Je pense que d'autres vont s'y retrouver. Moi, ce que je retiens, c'est la nécessité, en fait, de travailler avec l'ensemble des acteurs pour légitimer cette action internationale qui a, comme vous l'avez malheureusement rappelé, terriblement besoin d'être sans arrêt, relégitimée et redéfendue. Merci beaucoup, mais nous aurons peut-être d'autres occasions de préciser certains points de votre intervention. Nous allons changer de géographie, changer de niveau institutionnel aussi. Et je vais donner la parole à Jérôme Auslander. Monsieur Auslander, donc vous êtes adjoint au maire en charge des affaires européennes, des relations internationales, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante de la ville de Clermont-Ferrand. Mais vous portez aussi, vous pilotez le réseau international des villes Michelin. Alors la première question que je vais vous poser, c'est déjà en quoi consiste ce réseau, son objectif, son fonctionnement, notamment son lien avec les acteurs du territoire, par rapport à ce qui a été dit précédemment, à la fois par Nadia Pelfig, pour que vous puissiez peut-être commencer à voir des convergences ou des similitudes, mais peut-être aussi des divergences, des choses sur lesquelles vous procédez différemment.
Bien, bonjour à toutes et tous. Merci pour votre question. Et je repartirai en fait de votre introduction pour y répondre. Vous avez distingué les différentes étapes qui ont émaillé la vie des collectivités territoriales dans leurs relations internationales. Et effectivement, la volonté de la ville de Clermont-Ferrand, c'était de sortir du cadre traditionnel de la coopération décentralisée de ville à ville pour rentrer dans un cadre qui soit un cadre plus multilatéral et qui parte surtout de la réalité de l'ouverture de notre ville à l'international. Et on s'est rendu compte du fait d'une spécificité qu'on a à Clermont-Ferrand, qui est la présence de la seule entreprise du siège social, de la seule entreprise du CAC 40 qui se situe en province, Michelin. Du fait de cette présence, on a constaté qu'on avait une très très grande ouverture sur le reste du monde. Michelin, c'est 120 000 salariés dans le reste du monde. Et on a constaté qu'on avait beaucoup de Clermontois qui allaient vivre pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, dans différentes villes dans lesquelles Michelin était installé, avait un centre de production et ou de recherche. Et qu'à l'inverse, on avait de nombreux ressortissants étrangers qui venaient de ces villes pour vivre à Clermont-Ferrand pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Donc on a essayé de partir de cette réalité des flux internationaux qui existaient déjà dans notre ville pour les consolider et pour les élargir. Et donc on a créé un réseau international de villes, qui est un réseau international de villes Michelin, qui est donc en commun cette identité industrielle. Et on a créé ce réseau. Alors, on s'est posé beaucoup de questions parce qu'il est très hétérogène dans sa composition. On a des villes, on a 2/5 des villes qui ont, on a à peu près une trentaine de villes hein, dans ce réseau. 2/5 sont des villes de 10 à 50 000 habitants, 2/5 des métropoles de 100 à 500 000 habitants, et on a le dernier 1/5 qui sont quelques mégalopoles comme Chennai en Inde ou Shanghai en Chine. Et donc, on s'est demandé est-ce que ça allait fonctionner avec une telle diversité de profils. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ce qui pouvait être une faiblesse était finalement un atout, parce que les villes, évidemment, ne disposent pas des mêmes moyens, des mêmes ressources financières pour faire face aux défis qui sont les leurs, mais les défis sont les mêmes. On est tous confrontés aux mêmes problématiques relatives au changement climatique, à la même nécessité d'aménagement des transports publics, de renforcement des services publics, etc. Et on s'est rendu compte que certaines villes, Bridgewater au Canada, une ville de 8 000 habitants, pouvait être utile à Chennai en Inde, une ville de 8 millions d'habitants. Comment ? Bridgewater, ils ont développé un système pour faire face au grand froid de climatisation qui, quand on l'inverse, permet de faire face aux grandes chaleurs, ce qui a intéressé très fortement une ville comme Chennai en Inde. Donc l'idée générale, c'était de construire des coopérations multilatérales. On a construit notre réseau sur deux piliers. Un premier pilier qui est un pilier assez classique, qui est celui des échanges de bonnes pratiques entre villes, les politiques publiques innovantes, écologiquement responsables, efficaces, économes, etc. Et le deuxième, c'est un pilier de coopération entre nos villes et de coopération pour les acteurs des territoires de nos villes. Et du coup, ces coopérations, on a essayé de les décliner dans tous les domaines dans lesquels les forces vives de nos territoires étaient impliquées. Par exemple, dans le domaine culturel, on a construit un réseau, un parcours plus exactement, de résidence d'artistes pour permettre à des artistes clermontois d'être accueillis dans une des villes du réseau, en Amérique du Nord ou en Inde, sous réserve de réciprocité, bien évidemment. Donc, pour les acteurs culturels de notre ville, ils vont avoir l'opportunité de pouvoir être accueillis dans différentes villes du réseau. On a construit, on revient hier du Canada aussi, sur le domaine économique, un réseau de start-up, un corridor des incubateurs. L'idée étant de faire en sorte que nos start-up clermontoises puissent avoir accès aux marchés internationaux des villes partenaires du réseau. Très concrètement, ça veut dire que des villes comme Magog au Québec vont pouvoir accueillir des start-up clermontoises, vont pouvoir les accompagner pour qu'elles puissent avoir accès au marché nord-américain et se développer. Et évidemment, en contrepartie, on accueillera des start-up de Magog. Et ça, on essaye de le décliner, c'est ce qui fait un peu la singularité de ce réseau, de manière multilatérale, de sortir simplement du cadre bilatéral traditionnel des jumelages dans lesquels les collectivités territoriales engageaient habituellement leur coopération internationale.
Merci beaucoup. Ce que je retiens, et ça m'amènera peut-être à une deuxième question. Donc, dans votre expérience, c'est finalement une entreprise qui a impulsé peut-être une première ouverture internationale. Et ça a fait écho chez moi une réunion, une rencontre que j'ai eue il y a peu avec une ville portuaire importante en France qui disait combien en fait c'était le port qui les avait amenés dans l'action internationale. Et ce n'était même pas leur propre impulsion de base, mais qu'ils avaient été emportés et qu'à partir de là, ils avaient construit bien sûr leur politique de coopération internationale. Donc aujourd'hui, non seulement vous êtes acteur au niveau de la ville de Clermont-Ferrand pour accompagner ce réseau des villes Michelin, sur bien d'autres sujets que ceux qui étaient strictement liés à l'entreprise Michelin, vous êtes aussi accompagnateur avec des dispositifs d'accompagnement des acteurs. Comment vous le mettez en œuvre ?
En fait, très concrètement, ce réseau international qu'on a construit, c'est un outil. Et on l'a présenté comme tel aux acteurs du territoire. D'abord, on a construit cet outil avec les acteurs du territoire. Quand on a mis en place, il y a 7 ans, le réseau international des villes Michelin, on a réuni tous les acteurs universitaires, économiques, culturels, pour leur demander quelles étaient leurs attentes par rapport à cet outil qu'on allait mettre en place. Et maintenant, c'est un outil qui... Alors, il y a un travail qui est nécessaire de diffusion, de faire connaître l'existence de ce réseau, parce que chacun l'a dit, hein, les questions internationales, elles sont souvent assez éludées dans l'espace public, donc on a un travail très volontaire à mener de ce côté-là. Mais l'idée, c'est de leur dire, maintenant, cet outil, il sera ce que vous allez vous en faire. Il est à votre disposition. On a des correspondants dans les villes, dans près d'une trentaine de villes dans le monde. S'il y a des villes avec lesquelles vous voulez coopérer, on est là pour se mettre à disposition et créer les liens avec ces villes. Mais très concrètement, il y a peu de temps, on a un centre à l'université qui travaille à la valorisation de la recherche et de l'innovation et qui, pour dans le cadre d'ici, pour maintenir ces financements, a besoin de coopération internationale. Ils sont venus nous voir pour qu'on puisse les mettre en lien avec des villes du réseau pour qu'ils puissent créer des coopérations internationales. Donc cet outil, maintenant, il est à la disposition des différents acteurs du territoire et progressivement, il commence à être connu et les acteurs... Dans le domaine sportif, par exemple, on a le Clermont Foot qui, quand il est arrivé, quand il est passé en Ligue 1, malheureusement, il a reculé depuis, mais quand il est arrivé en Ligue 1, nous a dit bah, « Votre réseau, il nous intéresse beaucoup. Il nous intéresse parce qu'on va pouvoir être en capacité de repérer des nouveaux talents dans les villes du réseau. Donc, mettez-nous en contact avec ces différentes villes. » Donc, voilà, c'est un outil de coopération internationale, à la fois qui permet de consolider nos politiques publiques, mais qui permet également aux acteurs du territoire d'engager des coopérations internationales.
Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant nous décentrer un peu. Nous allons sortir de notre hexagone français pour aller regarder ailleurs. Monsieur Ananias Georges Mansali, vous êtes président du conseil départemental du Ziguinchor au Sénégal et je vous remercie très chaleureusement d'être là avec nous aujourd'hui. Vous présidez donc un département, le département du Sénégal, qui est un territoire lui-même animé par des acteurs nombreux, intéressés ou déjà engagés à l'international. Et vous êtes également partenaire de plusieurs collectivités territoriales françaises. Alors, la première question que je voulais vous poser, c'est à partir de votre réalité sénégalaise à vous, comment vous percevez le rôle de votre propre département dans la dynamique internationale de votre territoire? Pour vous, quel est le rôle, votre rôle d'élu auprès des acteurs de votre territoire pour les engager à l'international? Est-ce que vous êtes aussi un accompagnateur, un impulseur, ou est-ce que vous les laissez ouvrir les portes et vous vous engouffrez derrière? Comment vous voyez ce rapport avec les acteurs? Je fais un peu dans la caricature, mais voilà.
Merci beaucoup, je vous comprends. Je tiens d'abord à vous remercier pour cette invitation. Et par ailleurs, remercier la délégation sénégalaise qui est là, notamment avec le directeur de la coopération. Pour revenir sur votre question, il serait bon quand même de situer la ville de Ziguinchor, au-delà de la ville de Ziguinchor, le département de Ziguinchor. Ziguinchor est au sud du Sénégal. Les gens ont tendance à penser que nous sommes excentrés, c'est une région qui est pauvre, tout ça nous le savons. Mais les gens ont tendance à voir la ville de Ziguinchor et le département de Ziguinchor, la région naturelle de la Casamance, comme une région qui est un peu à l'écart par rapport au reste des autres régions du Sénégal. Alors qu'en réalité, la région de Ziguinchor, pour nous, est au centre, c'est un carrefour. Parce que pour quelqu'un qui connaît bien la géographie de Ziguinchor, en réalité, vous avez au nord la République sœur de Gambie, vous avez au sud la République sœur de Guinée-Bissau, vous avez la République de Guinée. Donc, en d'autres termes, c'est un carrefour. Et ce carrefour, vous ne pouvez pas, aujourd'hui, pour Ziguinchor, toutes les ethnies du Sénégal sont représentées. C'est la seule région au Sénégal où toutes les ethnies du Sénégal sont représentées. C'est la seule région au Sénégal aussi où vous pouvez voir un musulman, un catholique, un animiste, vivent en communion. Ça n'existe nulle part au Sénégal. Donc pour nous, quand on parle de teranga sénégalais, il n'y a pas un meilleur territoire aujourd'hui que la région de Ziguinchor. Mais malheureusement, qui n'est pas connu, qui n'a pas été aujourd'hui mis au devant de la scène. Nous avons, depuis notre élection, nous avons décidé de vendre. Pour nous, c'est un diamant brut qui n'a pas été poli. Donc pour nous, il faut le vendre. Et on doit être fiers de ce que nous sommes. Et au-delà, essayer de comprendre et aller vers les collectivités qui s'identifient à nous. Parce qu'il ne faudrait pas aussi nouer un partenariat juste pour un simple, pour nouer juste un partenariat. Il faudrait que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Parce que pour nous, il faudrait vendre ce que nous avons de positif, mais aussi ce pour qui nous sommes décidés de collaborer aussi nous donne quelque chose en quoi, sur quoi nous aussi on en a besoin. Donc on a parmi toutes ces collectivités, on a vu que le département de Saint-Denis s'identifie particulièrement au département de Ziguinchor. Parce que quand vous voyez Saint-Denis, Saint-Denis aujourd'hui fait partie des régions, les départements les plus pauvres du Sénégal, tout le monde, de la France, tout le monde le sait. Saint-Denis, mais Saint-Denis regorge aujourd'hui d'une richesse. Peut-être, je l'ai dit aux responsables, vous ne savez pas près ce que vous avez, mais il n'y a pas un département français aujourd'hui où il y a autant de nationalités dans le département de Saint-Denis. Ça n'existe pas. Prenez aujourd'hui la carte géographique de la France, vous verrez que ce que le département de Saint-Denis a comme potentiel, comme richesse, peut-être vous ne le savez pas encore. Il serait bon qu'ensemble nous essayions de voir, nous réfléchissions pour que nous puissions profiter aujourd'hui de ce que la diversité culturelle peut offrir à ce monde, pour que ce monde puisse vivre dans l'harmonie, dans la paix, mais surtout dans la tolérance. Et je crois que c'est ça qui a motivé aujourd'hui notre collaboration avec le département de Saint-Denis. Donc c'est pour vous dire que nous sommes en train de travailler lentement mais sûrement pour des lendemains meilleurs, parce que pour nous, la collaboration, le partenariat doit être vu autrement. Ça doit être plutôt un partage d'expérience. Et nous savons que le département de Saint-Denis peut offrir beaucoup de choses aujourd'hui au département de Ziguinchor, mais le département de Ziguinchor peut offrir davantage aussi au département de Saint-Denis. Aujourd'hui, avec les Jeux Olympiques de Paris, je pense que c'est clair, on a été très clair, c'est les Jeux Olympiques de Paris. Mais en réalité, quel est le département qui bénéficie de ces Jeux? C'est le département de Saint-Denis. Dans 5 ans, dans 10 ans, quand les gens feront l'évaluation économique, les gens verront que peut-être c'est le département de Saint-Denis qui aura à profiter de ces Jeux. Donc pour nous aussi, on doit profiter de cette expérience. Comment le département de Saint-Denis a pu profiter des Jeux Olympiques de Paris, qui en réalité c'était les Jeux Olympiques de Paris, mais que Saint-Denis a pu en profiter. Mais comment aussi le département de Ziguinchor pourra profiter des Jeux Olympiques de Dakar 2026, tout en sachant que ce n'est pas les Jeux Olympiques de Ziguinchor, mais pour nous, il faudrait que ce soit les Jeux Olympiques de tout le Sénégal. Et que le Sénégal, la région de Ziguinchor est au sud. Donc, il faudrait promouvoir aujourd'hui cet accès touristique, travailler sur des programmes structurants, notamment l'aménagement du littoral, faire connaître davantage cette région, travailler aujourd'hui sur des infrastructures. Nous savons que le gouvernement actuel a mis en place aujourd'hui un plan Diomaye président avec un montant extrêmement conséquent. Donc c'est un gouvernement qui va travailler aujourd'hui sur le développement des infrastructures. Mais au-delà de ce développement des infrastructures, il serait bon aujourd'hui qu'il y ait ce brassage culturel. Il faudrait qu'il y ait aujourd'hui que les populations, au-delà des populations casamancaises, sénégalaises qui vivent en Saint-Denis, mais aussi les populations africaines, les populations des autres peuples qui viendront au niveau du Sénégal pour ces Jeux Olympiques, aller au sud, découvrir cette belle diversité culturelle, découvrir comment vit aujourd'hui le Sénégalais. Parce que quand tu es à Ziguinchor, tu sauras en réalité comment vit le Sénégalais. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons décidé de collaborer avec certaines collectivités françaises, notamment le département de Saint-Denis.
Merci beaucoup. Je trouve votre intervention très, très, très pertinente, très intéressante. Elle révèle aussi peut-être une des autres raisons de l'engagement international des collectivités, quel que soit leur espace où elles se situent, c'est que cet engagement international, il peut aussi être force de cohésion sociale, de définition d'une propre identité, de revalorisation. Vous faisiez part du sentiment parfois d'être en dehors ou peut-être plus en marge. Et l'internationalisation, c'est peut-être aussi un moyen de valoriser ce que nous sommes, ce que vous êtes dans vos territoires au niveau local. Et je voudrais me permettre une deuxième question, puisque Vous êtes là le seul panéliste représentant une collectivité territoriale étrangère. Quand vous vous engagez, même si vous y avez déjà un petit peu répondu, quand vous vous engagez à l'international et que vous décidez d'un partenariat avec une collectivité territoriale, qu'elle soit française ou ailleurs, qu'est-ce que vous voyez en elle ? Avant tout une institution ou tout un territoire ? Et si oui, quel type d'acteur ? Est-ce que vous êtes attentif à ça ? Vous avez bien sûr parlé du département de Seine-Saint-Denis, où vous avez tout de suite identifié la diversité des nationalités qui séjournaient, qui vivaient. Mais voilà, y a-t-il d'autres choses que vous voudriez nous partager pour que nous, Cités Unies France, représentants de collectivités territoriales françaises, nous ayons aussi votre regard sur ce que vous regardez chez vos partenaires quand vous vous engagez à l'international.
Bien, merci beaucoup. Mais il faut comprendre aussi qu'une action internationale des collectivités territoriales et une action extérieure des collectivités territoriales, c'est deux choses qui en réalité. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans l'action internationale, nous avons des relations entre collectivités territoriales. Mais quand on parle d'action extérieure des collectivités territoriales, en réalité, c'est les collectivités territoriales et les autres acteurs qui ne sont pas des collectivités territoriales. Donc, pour nous, on ne peut pas aujourd'hui parler d'un partenariat uniquement limité entre collectivités territoriales. Donc ça, ce n'est pas possible. Il faudrait aller au-delà de ces relations. Parce que ce qui est important, c'est le développement durable. Et dans ce développement durable, il ne peut pas se faire seulement et se limiter entre deux collectivités territoriales. Il faudrait que ce soit un ensemble qui permettrait aujourd'hui à ces collectivités de pouvoir se développer. Donc nous, c'est cette vision que nous avons. Et nous sommes dit, au-delà des collectivités territoriales, il serait bon de nouer aujourd'hui des partenariats, bien sûr, avec d'autres acteurs pluriels, notamment aujourd'hui avec le GRDR, pas pour le nommer, mais il y a le GRDR aujourd'hui qui intervient dans le département de Ziguinchor en relation avec la collectivité territoriale qui intervient à Rufisque avec le département de Montpellier, si je ne me trompe pas. Nous sommes en train de travailler pour voir ce que le GRDR a fait au niveau du département de Rufisque dans le cadre des cantines scolaires, en relation, bien sûr, avec le département de Saint-Denis, essayer de voir comment répliquer une telle méthodologie aujourd'hui pour le département de Ziguinchor. Nous y travaillons. C'est pour dire que les acteurs extérieurs sont très importants aujourd'hui dans le cadre du développement des relations de partenariat entre collectivités territoriales.
Merci beaucoup. Merci pour ces précisions.
Merci beaucoup.
Je vais maintenant me tourner vers Gaëlle Lebarbu, qui est directrice du GESCOD. Le GESCOD est un RRMA et les RRMA sont des réseaux régionaux multi-acteurs. Ce sont des acteurs donc qui agissent sur des territoires qui animent un collectif d'acteurs engagés à l'international. Si je ne me trompe pas, il y a 12 RRMA et donc ils accompagnent, comme leur nom l'indique, et à la différence de Cités Unies France, un collectif d'acteurs dans toute leur diversité. Donc c'est un poste tout à fait intéressant pour observer ce dont nous parlons depuis le début de cette plénière. Au sein du GESCOD, donc le réseau régional du Grand Est, vous avez, je crois, vécu cet élargissement de la coopération vers le multi-acteur. Donc peut-être pourriez-vous nous raconter comment ça s'est passé, comment s'est incarnée cette évolution, et peut-être nous partager quelles expériences réussies de collaboration, si vous le souhaitez, vous souhaiteriez plus particulièrement partager les expériences de collaboration entre les collectivités et les acteurs de leur territoire que vous avez pu observer.
Oui, merci de nous donner l'occasion de reparler encore des réseaux régionaux multi-acteurs qui sont des partenaires vraiment en territoire, des associations comme CUF avec qui on a une vraie complémentarité. Donc, nous, GESCOD, effectivement, on va peut-être vous parler plus de coopération décentralisée, essayer de peut-être d'enfoncer des portes ouvertes et de rappeler des choses qu'on sait tous ici, mais c'est un peu ce rôle d'observation depuis le Grand Est. Qu'est-ce qu'on voit pour une coopération qui dépasse la coopération décentralisée simple et qui est vraiment ouverte sur le territoire, tout ce qui vient d'être évoqué précédemment. Et c'est vrai que c'est inscrit dans notre histoire, nous, de réseau régional multi-acteur, puisqu'à l'origine, nous étions l'IRCOD, créé en 1986, comme un outil mutualisé pour les collectivités territoriales alsaciennes qui souhaitaient mener des actions de coopération décentralisée ensemble à l'étranger, avec une implantation au Cameroun, à Madagascar, et puis là, actuellement, on a 9 antennes dans des pays du Sud pour toujours favoriser cette mutualisation. Et puis, on s'est transformé, on est devenu un réseau régional multi-acteurs, en intégrant du coup les deux autres composantes qui ont été présentées tout à l'heure, notamment par Rokaya, tout ce qui est l'appui aux acteurs du territoire, tout ce qui est la dimension d'EXI, de promotion des ODD, mais aussi une autre dimension intéressante dont on pourra peut-être dire deux mots tout à l'heure, qui est la mobilité internationale, qui est un corollaire très intéressant aussi de toutes ces actions de coopération. Donc c'est difficile de choisir un exemple en tant que tel. Peut-être que si on essaye d'avoir une trajectoire un petit peu comme ce qui a été signalé au départ, l'idée c'est de se dire toutes nos collectivités territoriales, toutes les collectivités territoriales qu'on appuie, alors on a 50 adhérents à GESCODE et une trentaine de collectivités qui sont impliquées dans leur coopération décentralisée au sein de GESCODE. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une trajectoire effectivement intéressante. Pour qu'une collectivité, elle devienne porteuse de sa coopération décentralisée, que la coopération décentralisée puisse durer au-delà des changements d'exécutif. Et là, je crois qu'on est tous dans cette période-là d'incertitude, pas à cause des changements d'exécutif, mais aussi à cause des tensions budgétaires, où on sait que les coopérations internationales ne sont pas la priorité en général, comme ça a été rappelé tout à l'heure par l'élu d'Occitanie. C'est vraiment important que cette coopération décentralisée, elle puisse être partagée. Donc partagée, on l'a entendu, c'est ce qu'a souligné aussi Monsieur le Président tout à l'heure, partagée avec les acteurs du territoire qui vont amener une expertise, une coopération enrichie. Ça, on le voit bien, mais il faut qu'elle soit partagée aussi vraiment avec la population, avec les habitants qui se l'approprient et qui du coup donnent cette dimension de légitimité à cette coopération décentralisée. On le voit. Que ce soit une petite commune, un département, une ville plus grande, on a quand même ces invariants de se dire une coopération qui marche, c'est une coopération appropriée, une coopération légitime et partagée. Et ce partage, donc, il va passer par la mobilisation d'acteurs en interne. On le sait bien, il faut dépasser les seules directions des relations internationales, aller vers les directions thématiques, aller aussi vers les satellites des collectivités territoriales. La région Grand Est le fait beaucoup dans ses coopérations, travailler avec les agences de l'urbanisme, les parcs naturels régionaux, les écoles d'architecture. On a vraiment tout un satellite, et vous l'avez aussi évoqué, qui peut venir renforcer la coopération décentralisée, l'enrichir. Mais ce partage, il passe aussi vraiment sur tout ce volet, sans doute, d'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale, basé sur la promotion des objectifs de développement durable. Et ça, c'est vrai que ces objectifs de développement durable, ils nous offrent quelque part un cadre formidable pour partager en interne, en externe, et aussi avec tout l'écosystème qui peut venir faire le lien autour de des coopérations décentralisées. Donc les associations de solidarité internationale, les établissements scolaires. Et ça, c'est quelque chose que nous, en tant que réseau régional multi-acteur, comme les 11 autres, on a à cœur de développer. Alors un exemple concret, puisqu'on nous demande un exemple concret. Alors c'est difficile de citer un exemple parmi une trentaine de coopérations, mais on pourrait par exemple se focaliser sur la ville de Mulhouse, qui vient de fêter les 20 ans de son partenariat avec la ville de Majunga à Madagascar cet été. Et c'est une coopération qui marche bien, qui a vu passer beaucoup d'exécutifs, qui a eu beaucoup de circonstances budgétaires favorables, défavorables passées, mais qui s'ancre dans le temps. Et c'est une coopération qui est née à l'origine sur une façon assez technique, l'idée d'un apport d'expertise sur la gestion des marchés de Majunga. Et puis ça s'est développé à divers champs de l'action locale, avec une implication croissante des acteurs locaux. Donc on est passé aussi aux finances locales, à la lecture publique. Et donc la dimension multi-acteur, là même dans la coopération décentralisée en tant que telle, on va la retrouver. Puis nous, GESCODE, on l'appuie, c'est bien pour ça que je vous cite cet exemple-là. Ce qui fait qu'actuellement, Mulhouse mobilise aussi son CIVOM, travaille avec la collectivité européenne d'Alsace sur la lecture publique, travaille avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg, avec les pompiers de Hörfelden. Donc vraiment, sur le champ de la coopération, dans l'échange entre Majunga, la communauté urbaine de Majunga et Mulhouse, on a une coopération qui est vraiment partagée sur le territoire. Mais surtout, je pense que ce qui fait aussi la force de cette coopération de Mulhouse, c'est qu'elle s'ancre sur l'action du zoo de Mulhouse, qui est en préservation des lémuriens, qui est en charge d'une préservation d'espèces de lémuriens, et qui tous les ans, en lien avec la ville, organise Madagascar en fête, qui est un grand événement avec toutes les associations du territoire qui ont un lien avec Madagascar, ou qui ont un lien avec les thématiques portées dans la coopération entre Majunga et Mulhouse. ce qui fait que ça donne vraiment un impact important aux actions. Et puis, ils ont développé aussi quelque chose que nous, réseaux régionaux multi-acteurs, on essaye de promouvoir en lien et vraiment avec le soutien de l'Agence française de développement. C'est tous ces projets d'EXI, que ça soit porté par des associations à destination du grand public. Donc, il y a le dispositif Récital qui nous permet de soutenir les acteurs des territoires. On sait que les régions le font. C'était évoqué hier au club AFD où certaines collectivités ont déjà des dispositifs de soutien aux actions d'EXI. Mais on peut aussi venir en complément, notamment peut-être sur des plus petits territoires, et apporter aussi une méthodologie et tous les outils de l'EXI. Je pense que ça sera abordé cet après-midi dans l'atelier. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et donc la ville de Mulhouse, au-delà de cet événement grand public, développe aussi de plus en plus des projets dans les écoles, en appui avec des associations, soit liées à la diaspora malgache, soit en lien avec Madagascar et avec leurs partenariats. Et donc là, on a quelque part d'une coopération décentralisée, peut-être classique, institutionnelle, qui tournerait sur des échanges techniques en réciprocité avec un vrai impact. On a une coopération élargie qui a un impact beaucoup plus large sur le territoire, en tout cas de Mulhouse. Voilà, donc ça c'est un exemple et je voulais en profiter juste peut-être, si je peux encore, pour dire que dans cette dimension d'élargissement d'une coopération décentralisée, il y a deux outils très intéressants, mais je pense que on est tous convaincus dans la salle, c'est aussi les campagnes citoyennes, pouvoir développer des événements grand public autour du festival alimentaire par exemple, en lien avec une coopération décentralisée, ça permet de faire parler de sa coopération décentralisée et de la partager avec les citoyens. Et ça, par exemple, la ville de Ribeauvillé, qui a investi dans une coopération de long terme avec le département du Poule au Congo sur des sujets agriculture, travaille avec l'AFDI et GESCODE, et l'AFDI apporte une expertise sur les projets, mais elle apporte aussi tout ce lien avec les lycées agricoles, les établissements dans le cadre de la campagne alimentaire, ce qui fait qu'on arrive à partager autour de cette coopération agricole au-delà voilà, de la coopération elle-même. Et puis le deuxième point que je voulais signaler comme un outil très intéressant qu'on voit en plein développement en ce moment, c'est tout ce qui tourne autour de la mobilité internationale, notamment le volontariat de solidarité internationale avec les programmes très ambitieux qui ont pu être développés par le ministère des Affaires étrangères récemment. Nous, ce n'est pas nouveau d'avoir des volontaires, mais le volontariat de solidarité internationale et le programme TEVO, par exemple Territoire Volontaire, offrent à des collectivités l'occasion vraiment de faire incarner leur coopération par des volontaires en réciprocité accueillis sur le territoire. En Grand Est, typiquement, là, on vient d'accueillir une volontaire, enfin la ville de Markolsheim, qui est engagée dans une coopération notamment sur l'eau et l'environnement avec la ville de Beanane, vient d'accueillir Nancia, qui est une volontaire spécialiste des projets eau, et elle est basée au centre socioculturel pour travailler sur la promotion de la gestion durable de l'eau, les ODD, auprès d'un public senior et d'un public junior. Et Markolsheim, c'est une petite ville. En 6 semaines à peine, on a déjà une couverture presse très intéressante. Nancia n'arrête pas d'être sollicitée. Elle incarne vraiment cette coopération. Et je pense que Markolsheim, là, a un nouvel élan et un nouveau moyen de partager sa coopération. Et ça, c'est quelque chose qui se développe pour de nombreuses collectivités, notamment en Grand Est. Alors moi, je parle du Grand Est. Et quelque chose qui est vraiment très intéressant, en tout cas, pour dépasser les coopérations décentralisées, peut-être un peu trop confidentielles à l'ancienne. Voilà.
Merci beaucoup pour ce témoignage très complet et très concret aussi, qui permet de souligner quelque chose d'absolument essentiel en termes de légitimation aussi, c'est ces notions d'EXI. Je pense que c'est un sujet devenu assez familier pour la majorité des collectivités territoriales. Juste pour nos partenaires étrangers qui jargonnent peut-être un peu moins que nous, l'EXI, c'est l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Merci beaucoup. Toute petite aparté, je demande vraiment aux gens qui continuent de discuter dans la salle de le faire le plus discrètement possible ou de bien vouloir aller soit dehors, soit dans d'autres espaces pour ne pas gêner l'écoute et la mobilisation des panélistes. Je vous remercie. On a donc écouté plusieurs représentants des territoires à différents niveaux, dans différentes géographies. On va maintenant écouter sur ces sujets-là deux représentants importants, de partenaires institutionnels et financiers des collectivités territoriales dans leur action internationale. Je vais d'abord donner la parole à Stéphanie Lanfranchi. Alors, vous êtes directrice de la mobilisation et des partenariats nationaux à l'Agence française de développement. L'AFD, c'est l'opérateur de la France en matière d'aide publique au développement. Et avec l'outil FICOL, l'AFD a maintenant depuis plusieurs années un outil qui permet d'appuyer les collectivités territoriales dans le renforcement, le développement, l'amplification de leur coopération décentralisée pour aider leurs partenaires étrangers. Mais l'AFD, c'est également une institution qui vient en appui aux ONG avec le concours d'autres, enfin aux ONG et d'autres types d'acteurs avec le concours de ses filiales et de ses partenaires. La question que je voulais vous poser est finalement assez simple. Quelle est la plus-value de l'AFD à soutenir, quelle plus-value, enfin plutôt, l'AFD voit à soutenir les collectivités territoriales? Pourquoi les collectivités territoriales sont des acteurs que vous souhaitez soutenir dans leur internationalisation? Qu'est-ce qu'elles sont peut-être capables de faire? Qu'est-ce qu'elles ont comme qualité qui leur permet d'être un acteur tout à fait pertinent en matière d'internationalisation?
Merci beaucoup. Déjà, je me réjouis d'être parmi vous parce que c'est la première fois que j'assiste aux rencontres en ma qualité de directrice du département de la mobilisation des partenariats nationaux. En fait, ça veut dire qu'on chapeaute un peu au sein de notre département à la fois les collectivités, les RRMA, les ONG, les entreprises privées et puis tous les acteurs aussi de l'État, tous les établissements publics français. Donc effectivement, on a cette vision un petit peu globale. Je vous donne aussi le salut de Monsieur Rémy Rioux, notre directeur général, qui a l'habitude de venir discuter avec vous et qui est retenu cette année aux assemblées générales de la Banque mondiale et du FMI. Et il voulait encore apporter son soutien personnel et de l'institution à la coopération décentralisée et à l'action internationale des collectivités territoriales. Ben, moi déjà, ce qui nous réunit aujourd'hui et ce qui nous unit aux collectivités territoriales et aux RRMA, j'insiste un peu sur les deux parce que la notion multi-acteurs nous est chère, c'est la solidarité internationale. Et je prends votre point, c'est assez facile. En quoi est-ce que pour nous, il y a une valeur ajoutée? Ben, 68% de votre étude donc de projet sont des projets d'aide au développement. Et donc, pour nous aujourd'hui, ça vient corroborer les sondages que nous avons qui disent que 8 Français sur 10 estiment que l'avenir des pays en développement peut avoir un impact sur leur propre vie. Donc il y a une notion très ancrée. Et puis, à l'instar des autres Européens, 75% et 3/4 de nos compatriotes pensent que les défis du monde appellent des réponses collectives. On est au cœur, en fait, par la coopération décentralisée, par l'action internationale des collectivités territoriales, à la réponse à ces sujets. Donc pour nous, on voit d'abord que votre action, elle répond visiblement aux besoins et aux défis mondiaux, que ce soit dans vos territoires et dans les territoires avec lesquels vous êtes partenaire. Et puis c'est le maillage le plus proche en fait aux solutions, innovations, transitions qui sont apportées et qui sont aujourd'hui portées par les projets. Alors si je vais peut-être juste faire un petit point sur notre, parce que c'est les 10 ans de notre outil FICOL qui est, c'est vrai, l'outil le plus visible de notre soutien aux collectivités territoriales sur l'action internationale. Mais donc on a 10 ans cette année et on a réussi à avoir plus de 70 collectivités territoriales partenaires. On a plus de 83 projets qui ont été montés et à peu près 76% des 174 propositions qui ont été faites entre 2017 et 2024 ont été retenues et ont été cofinancées via cet outil. Alors cet outil, en quoi il est important aujourd'hui, c'est qu'il nous permet, alors aussi pour un montant global de, je crois, de 70 millions d'euros donc de 2017 à 2024. Ce qui est important de cet outil, c'est qu'il apporte pour nous un dialogue privilégié, c'est-à-dire qu'on va discuter avec les collectivités dès l'identification de votre projet, dès la manifestation d'intérêt, jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à la finalisation. Et c'est un accompagnement à la fois technique, financier. On le fait aussi avec les agences de l'eau, on le fait avec, bien sûr, DCT CIV, avec aussi la Caisse des dépôts en partenaire, parce que c'est un, là aussi, c'est un outil qui est partenarial et qui nous permet d'avoir donc la réalisation de projets, je crois, aujourd'hui de grande qualité. Je crois que le président de la séquence eau et assainissement hier a insisté sur l'enjeu de qualité des projets qui sont réalisés en coopération décentralisée, parce que c'est un enjeu de crédibilité, comme vous le disiez tout à l'heure, de légitimité de l'action. Donc on est vigilant, on essaye d'apporter un maximum, bien sûr, d'appui et d'accompagnement technique. On le fait aussi grâce à vous, avec CUF et bien sûr avec l'outil d'école, qui aujourd'hui aussi, je pense, on en est à la 11e édition, hein, et qui est aujourd'hui bien ancré. Alors, je crois qu'il y a au stand AFD, on peut aussi vous donner des informations sur cet outil et sur l'outil FICOL. Mais voilà, on a mis en place un accompagnement qui n'est pas uniquement un accompagnement financier, mais qui est un accompagnement vraiment technique et le plus possible partenarial. Moi, je veux quand même, aujourd'hui, je vais faire un petit plaidoyer parce que ce qui m'importe, comme on le disait, on est dans un temps très contraint, hein, de solidarité, pour la solidarité internationale, temps contraint budgétaire. Vous en êtes impacté, le groupe AFD est impacté aussi. Et donc il faut, je pense, se dire que voilà, il faut poursuivre. Je sais que vous êtes très motivé, je sais que je vous ai entendu notre collègue sur l'Occitanie a insisté, hein, sur le fait que bien évidemment ça va forcément y avoir peut-être un petit temps d'arrêt. Et sur ces gens d'eux, pourquoi pour nous il y a une réelle valeur ajoutée à la coopération décentralisée? C'est parce qu'en fait, ça vient vraiment participer à deux actions. La première action, c'est l'action de réciprocité, c'est-à-dire que ça nous permet de voir que tout ce qui se passe dans vos pays, par exemple, et justement sur votre département du Sénégal, a apporté à la Seine-Saint-Denis, puis ça doit être un très bon exemple de cette réciprocité, ce qu'ils font vous importe. Et c'est donc cette relation mutuelle bénéfique. Elle est essentielle, elle doit être valorisée, et nous, on la voit par tous les témoignages et dans tous les projets que nous avons au sein de la FICOL, que nous finançons au sein de la FICOL. Donc ça, c'est vraiment, je pense, dans l'ADN de toutes les coopérations décentralisées que nous avons vues aujourd'hui. Et puis, il y a ce deuxième enjeu qui est l'enjeu, pour moi, de réponse aux défis mondiaux. Et dans ce jeu de réponse aux défis mondiaux, je pense qu'il faut qu'on soit... vous participez à toutes les transitions, que ce soit la transition sociale, la transition écologique, la transition énergétique. Tous les acteurs, et notamment avec maintenant la mobilisation des RRMA, on le voit, apportent une dimension même économique importante dans les pays avec lesquels vous travaillez, auprès des collectivités avec lesquelles vous travaillez. Mais c'est quoi en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous allez permettre l'alignement des objectifs de développement durable et donc des politiques de développement durable au niveau du maillage territorial. Et ça l'ancre durablement. C'est le moyen le plus sûr d'être pérenne, le plus sûr que d'abord de voir que pour les citoyens la réalité de qu'est-ce que ça veut dire l'investissement solidaire et durable. Parce que si vous ne le voyez pas à votre porte, on peut vous en parler, hein, de façon, le changement climatique, c'est très vaste. Mais lorsque vous le vivez, lorsque vous voyez qu'il y a des solutions qui sont apportées, et que cette solution, elles sont apportées par des partenaires qui sont des partenaires collectivités, donc de pair à pair, il y a vraiment une réalité qui s'installe et une prise de conscience en fait de ces efforts collectifs, et que ces réponses collectives, ce sont celles qu'attendent, je pense, nos concitoyens et les habitants des régions de France et à l'étranger, voilà, sur les pays d'intervention de l'AFD. Donc ça, pour moi, c'était vraiment les deux points que je voulais vous donner, et un peu peut-être sur... vous dire comment nous on voit un petit peu la suite. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter à notre outil FICOL. Notre outil FICOL, il est superbe, mais il va être un petit peu contraint financièrement. Donc oui, on va être plus sélectif sur la qualité des projets, sur la maturité des projets qui vont nous être présentés. On va essayer de vous appuyer un maximum, mais je pense qu'il faut voir plus loin. Voir plus loin, ça veut dire travailler ensemble aussi à une meilleure efficacité et de notre action collective. Et en ça, comme vous le soulignez dans l'étude, le fait d'avoir des collectivités territoriales qui se mettent ensemble, qui ont une action commune, avec des objectifs communs, ça devient important. Nous, on voit que sur le Sahel, il y a beaucoup de collectivités territoriales qui travaillaient sur les trois pays, Mali, Burkina, Niger, qui aujourd'hui reportent en fait leurs actions sur la Mauritanie. On a de plus en plus de demandes de projets, de financement de projets en Mauritanie. La Mauritanie, effectivement, aujourd'hui, ou le Sénégal, qui est notre premier pays, en tout cas d'intervention au niveau de l'action internationale des collectivités territoriales côté AFD. Mais on a besoin, du coup, de se parler. On a besoin, et ça, Virginie, on a besoin de CUF, peut-être pour organiser ce type de grande réunion pays où on présente toute l'activité que nous avons dans les... plus globalement aussi avec les établissements publics français, mais aussi donc, au niveau de l'AFD, on a, nous, des programmes depuis des années dans des secteurs qui vous intéressent. Et là où vous allez mettre votre action avec une collectivité territoriale mauritanienne, par exemple, eh bien, on peut vous dire, nous, on peut mutualiser avec vous une étude de faisabilité. Parce que sur un projet que nous avons déjà en place, soit avec des OSC, soit avec les partenaires nationaux, on a la capacité de capturer votre sujet et de peut-être le faire financer autrement que via directement le projet en lui-même. Donc il y a des synergies à trouver, il y a des coopérations à trouver, il y a une façon de travailler peut-être un petit peu différemment. On a d'autres outils au sein de l'AFD qui sont aussi des outils d'assistance technique, d'accompagnement technique. On a maintenant Expertise France, j'espère que vous les connaissez tous, qui sont filiales de l'AFD, qui portent aussi des projets pour le compte de l'Union européenne et qui ont besoin. Et je sais qu'il y aura un atelier cet après-midi sur l'Union européenne et je vous incite vivement à y aller parce qu'on a besoin du plaidoyer, on a besoin de la force de frappe. Et ça serait fantastique si on pouvait avoir un groupe de collectivités territoriales qui veuille bien aller plaider les enjeux de coopération décentralisée à l'Europe, en tout cas la collectivité territoriale française. Je pense que c'est important qu'on ait cette coordination et ce plaidoyer commun. Voilà. Mais ça, nous, on est disposés à le faire, on est disposés à vous ouvrir nos livres, à vous ouvrir plus largement, en fait, parce qu'on sait que vous allez le faire quand vous allez voir l'Agence française de développement, mais localement dans le pays, mais généralement, votre projet, il est déjà un peu monté, vous êtes déjà un peu sur une dynamique avec votre partenaire de mise en musique du projet, alors que nous, on peut aussi vous dire, bien en amont, vous voulez aller sur ce pays, sur ce secteur, on fait déjà ça, on connaît tel partenaire, vous pouvez aller voir celui-ci. Et on est vraiment à votre disposition pour faire ce travail aussi de mise en réseau et ce travail partenarial beaucoup plus large. Donc n'hésitez pas, et je pense qu'on va essayer, nous, de gérer ça un peu, parce que je remercie l'équipe qui est ici, bien évidemment, et donc maintenant la direction a été donnée à Frédéric Audras pour tout le travail qu'elle fait. C'est encore, bien sûr, un step, encore, ou en tout cas une étape supplémentaire qu'on veut avoir avec vous dans le partenariat. Mais il faut qu'on arrive à canaliser et à se parler et à être beaucoup plus efficient, collectivement. C'était mon message. Et puis le dernier peut-être, c'est vous parliez de la montée en puissance du plaidoyer des collectivités dans les grandes instances internationales. On soutient la ville de Nice, bien sûr, sur la création du réseau des villes du littoral, qui aura d'ailleurs une déclaration au moment du sommet des océans à Nice en juin prochain. Là aussi, on est à votre disposition. Il est sûr qu'il y a des grandes instances. On a par exemple... L'AFD est à l'initiative d'une instance qui s'appelle Finance en commun, qui regroupe toutes les banques de développement internationales de nombreux pays. Et là, on a réussi à avoir un groupe, par exemple, de la société civile. FIDH est très mobilisé pour apporter toute la dimension approche droit humain au niveau des actions de toutes les banques de développement. Et ils sont très audibles, ils portent voix. On peut réfléchir aussi si des collectivités, alors bien sûr françaises et d'autres pays, veulent sur des thématiques estiment qu'il y a des enjeux et qu'elles peuvent porter parce qu'elles sont force de solution, parce qu'elles ont elles aussi des messages à apporter en termes d'innovation, d'agilité, d'adaptabilité. N'hésitez pas, là aussi, je pense que c'est des pistes qu'on peut travailler ensemble. Comme vous voyez, nous, on reste dans une dynamique très positive. On fera le dos rond, on va résister avec vous à ces enjeux budgétaires. en trouvant peut-être voilà, d'autres, par le partenariat, d'autres capacités de mutualisation et d'efficience.
Merci beaucoup, Madame Lanfranchi. Je retiens cet enjeu de réciprocité que vous avez exprimé, que je pense les collectivités tout à fait capables de porter dans le cadre de leur internationalisation. Elles le font déjà, elles n'ont pas le choix, il faut qu'elles le fassent pour se légitimer. Je retiens aussi cette conviction que, de toute façon, sur ces enjeux globaux, on ne saura se passer des collectivités territoriales. C'est elles qui, localement, déclinent des solutions pour les résoudre. Donc ça aussi, ça fait partie de ce plaidoyer que nous portons. Et à ce titre-là, les collectivités territoriales de CUF ont constitué un groupe de travail, d'ailleurs, au niveau de en appui avec CGLU, pour représenter et plaider en faveur de la reconnaissance de la gouvernance locale. Vous avez évoqué le sujet de l'Europe et de ces partenariats intelligents à penser avec la Commission européenne. Je crois qu'on a la chance d'avoir là des représentants, mais CUF est également membre de Plateforma, qui fait ce plaidoyer et d'ailleurs qui est partenaire de cet événement, je les en remercie. Et c'est un sujet sur lequel nous travaillons ensemble et sur lequel nous aurons certainement à renforcer au regard des annonces budgétaires faites, où nous aurons certainement effectivement à renforcer ou à interroger les collaborations, les renforcements de collaboration possibles. J'en viens à notre dernier intervenant, Frédéric Chollet, délégué à la DCT CIV au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc Frédéric, vous êtes à la tête d'une délégation qui dorénavant accompagne OSC et collectivités territoriales dans leur action internationale. C'est d'ailleurs une fusion, vous l'avez évoqué rapidement, qui a pu susciter quelques interrogations au démarrage. Alors, de façon peut-être un petit peu provocante, après tout ce qu'on a entendu, est-ce qu'une collectivité territoriale est un acteur du territoire comme les autres? Et sur quel sujet peut-être, ou quels enjeux particulièrement, vous pensez que la coopération décentralisée a une valeur ajoutée singulière?
Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup, Virginie, de ces questions. J'étais très. Enfin, c'est toujours difficile d'intervenir comme en dernier parce que vous avez tous apporté des témoignages extrêmement concrets. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est que, alors, j'ai effectivement pris mes fonctions il y a maintenant un an d'une délégation qui est la fusion de deux ex-délégations, l'une qui était dédiée à la coopération décentralisée et aux collectivités territoriales, et l'autre qui était dédiée à la société civile, c'est-à-dire toutes les relations avec les ONG, les projet porté par les ONG en lien avec l'Agence française de développement, une grosse partie aussi volontariat, et notamment le volontariat de solidarité internationale, puisque nous assurons la tutelle de France volontaire et nous sommes en contact avec toutes les organisations qui sont dédiées au volontariat, et puis une grosse partie aussi mobilité de la jeunesse. En prenant mes fonctions, j'ai vu à quel point la coopération décentralisée, c'était des projets qui étaient extrêmement concrets. C'est souvent des liens très forts ou des accroches qui existent entre deux collectivités. Et je me suis rendu compte à quel point les collectivités territoriales avaient cette capacité à comprendre leur environnement, à comprendre le tissu local. Et c'est la raison pour laquelle elles arrivent à mettre en œuvre des projets qui sont à la fois concrets, adaptés, qui font participer la population, qui permettent une appropriation de la population. Et donc cette coopération, elle est extrêmement utile et complémentaire de notre action diplomatique. On a une action diplomatique qui est souvent une action de capital. Et on voit à quel point en fait la diplomatie des territoires est complètement complémentaire et ancrée dans les territoires, et elle permet d'une certaine façon de montrer aux citoyens à quel point l'action diplomatique peut être concrète et changer la vie des citoyens. Stéphanie le rappelait, nous sommes dans une situation budgétaire qui est extrêmement contrainte, et porter cette voix auprès de nos concitoyens, mais également sur des terrains étrangers, c'est extrêmement important pour voir à quel point la solidarité internationale, le développement peut changer la vie de nos concitoyens. En ce qui concerne quelques autres remarques aussi que je voulais faire sur cette fusion qui a effectivement suscité quelques inquiétudes, notamment de la part des élus qui avaient la crainte d'être confondus avec les sociétés civiles. On a essayé de rassurer, mais avec le temps je me suis rendu compte à quel point les collectivités territoriales avaient une relation quasi quotidienne avec la société civile. On a évoqué le programme TEVO, par exemple, de volontariat, effectivement, qui permet à des collectivités de faire appel à des volontaires de solidarité internationale pour mettre en œuvre leurs projets. Mais en fait, toutes les collectivités font appel à des ONG. On l'a vu encore récemment, par exemple, à la ville de Paris qui, sur le Liban, vient de débloquer une aide substantielle avec Solidarité internationale, je crois, pour aider les populations libanaises. Et donc elles sont vraiment, quand on parlait d'écosystème ou de réseau, je crois qu'il y a vraiment, en tout cas, un besoin des collectivités d'avoir cette proximité avec les ONG et de ces ONG de travailler aussi en partenariat avec les collectivités. Au sein de la délégation, nous nous efforçons nous aurons des grandes échéances en 2025, pardon. Je pense notamment au sommet sur l'intelligence artificielle qui aura lieu en février. Il y aura le sommet UNOC3 sur les océans en juin à Nice. Il y a évidemment les COP sur le climat, sur la biodiversité. Et on demande systématiquement à la délégation de voir dans quelle mesure, à l'approche de ces échéances internationales, on peut associer plus étroitement à la fois les collectivités et la société civile. Et donc, nous sommes, je dirais, dans toutes les boucles de préparation de ces grandes échéances. C'est extrêmement important. Comme vous ne le savez peut-être pas, nous avons organisé en mars dernier les premières assises de la diplomatie parlementaire et de la coopération décentralisée au Quai d'Orsay. C'était une impulsion du président de la République. On a réuni de nombreuses collectivités territoriales, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale. Et l'objectif de ces assises, c'était comment mieux associer les collectivités territoriales à l'action diplomatique de la France. Et donc, nous les efforçons de le faire quotidiennement, donc via ces grandes échéances, en organisant aussi des rencontres entre des directions du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères avec les collectivités. Et donc, nous souhaitons qu'il y ait ce lien permanent, ces échanges entre le Quai d'Orsay et les collectivités territoriales. Dernier point, peut-être j'aurais mille choses à dire parce que j'ai pris des notes et c'est un peu décousu. Le Sahel, c'est vrai que le Sahel a été, je crois, très perturbant pour de nombreuses collectivités territoriales qui avaient des liens historiques dans les trois pays notamment que sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Comme vous le savez, les décisions qui sont prises, les décisions politiques qui sont prises et qui ont été prises vis-à-vis de ces pays, elles sont difficiles à prendre, mais mais elles sont assumées. Et je sais que de nombreuses collectivités avec qui nous avons échangé ont eu du mal à se désengager de partenariats qui étaient très ancrés, historiques. Et donc, nous avons notamment avec l'AFD essayé de les accompagner. Nous avons fait en sorte que les programmes qui étaient, stoppés dans ces pays-là puissent être redéployés dans d'autres territoires. Mais je sais que ça a été un traumatisme. C'est un traumatisme dû à ces liens historiques. Mais en tout cas, nous nous sommes toujours efforcés de les accompagner. J'aurais mille autres choses à dire. J'avais pris d'autres notes. Comme vous le savez, la coopération décentralisée, ça c'est un peu pour se projeter sur 2025. On va être effectivement sous forte contrainte budgétaire. Face à cette situation, ce que je veux, c'est prioriser nos actions. Donc, on va rester sur les grands pays dans lesquels notre coopération s'est déployée depuis longtemps. Je pense notamment au Sénégal, où j'étais récemment, le Maroc. Nous sommes très présents en coopération décentralisée dans les territoires palestiniens, au Liban. Nous l'avons été aussi plus récemment en Ukraine. Nous serons très impliqués sur l'Arménie. Et je sais que nous aurons à cœur, en tout cas, d'accompagner les coopérations décentralisées pour qu'elles puissent s'adapter aux besoins immédiats des populations. Je pense notamment au Liban, par exemple, puisque nous avons organisé il y a deux jours une conférence autour du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en franco-français avec des ONG, des collectivités, des fondations, le secteur privé. En tout cas, nous aurons à cœur de vous accompagner sur ces territoires qui sont déstabilisés, qui sont mouvants et sur lesquels vos coopérations sont extrêmement utiles si elles peuvent s'adapter. Donc c'est à peu près ce que je pouvais dire. Je suis désolé, ce sont des bribes un peu décousues. En tout cas, c'est les messages que je voulais vous faire passer.
Mais merci bien, Frédéric, pour ces présentations. Et moi, je retiens notamment deux choses. D'une part, votre souhait de travailler au niveau de l'État avec les collectivités territoriales sur des rendez-vous clés, qu'ils soient internationaux, bilatéraux, etc. Vous le savez, Cités Unies France, ta vocation, c'est aussi de structurer en groupe de travail et en groupe d'action les collectivités territoriales. Donc, ça a déjà été dit par le passé, et je profite de la tribune pour le rappeler, à disposition pour, lors de ces grands rendez-vous ou lors de ces déplacements internationaux, qu'une collectivité puisse être présente, représenter donc la voix des territoires français dans ces instances-là. On reste à votre disposition. Deuxième point que je relève et je le trouve intéressant, et il faudrait continuer de creuser certainement cela, vous avez parlé de cette diplomatie des territoires qui finalement vient aussi en contribution à une certaine reconnaissance ou une familiarité des citoyens avec la diplomatie. Et je trouve ça tout à fait intéressant que finalement la diplomatie internationale nourrit certainement les territoires, mais la diplomatie des territoires peut aussi nourrir la légitimité même de l'action diplomatique de la France et cette capacité à faire le relais entre le local et l'international auprès des citoyens. Existe au sein de la coopération décentralisée ou de l'action internationale des collectivités, et je pense que c'est un point à ne pas sous-estimer. Je pense qu'on a quelques minutes. Alors déjà, je remercie tous les panélistes. Je voulais vous proposer à chacun d'entre vous, si vous le souhaitiez, par rapport à ce que vous avez entendu, de redire, de reprendre la parole, si vous vouliez apporter un complément. Et voilà, et s'il n'y en avait pas, proposer à la salle, s'il y a des demandes de questions, de prise de parole, de précision, de le faire. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à lever la main, on vous portera un micro. Alors, il y en a une là-bas. presque. Alors, en attendant qu'on apporte le micro tout là-bas, je laisse Stéphanie Lanfranchi.
C'était juste pour expliquer comme pour GESCODE et pour aussi pour DCT CIV. On récupère trois jeunes volontaires de Solidarité Internationale en réciprocité qui arrivent à l'AFD. Il y en a déjà une qui est arrivée à Marseille. Et c'était juste pour vous porter le point, parce que c'est vrai que c'est pour nous aussi cette réciprocité dont on parlait, elle est essentielle, même au sein de nos équipes. Donc on est très heureux de participer aussi, en même temps que GESCODE, à ce mouvement de mobilité.
Oui, bonjour à toutes et tous. Donc Dounia Dury, département international de la Caisse des dépôts. C'était plus une remarque par rapport à ce que vous disiez sur ce que peut faire la Caisse des dépôts aussi, puisque vous faisiez le lien, et tu parlais, Virginie, de la façon dont l'AICT pouvait contribuer aussi à la cohésion sociale. Juste pour vous dire qu'on appuie chez nous aussi tout ce qui est internationalisation des territoires. On le fait en lien, comme tu le disais Stéphanie, avec nos partenaires, avec Cités Unies France, dont on cofinance le décol, avec l'AFD évidemment. Et on travaille notamment, et par rapport à ce que vous disiez côté RRMA, on travaille également avec la CIRMA, sur des projets de lieux qui seraient un peu comme des tiers-lieux dédiés sur les territoires français à la coopération et à la solidarité internationale, pour promouvoir, qui feraient notamment des espaces de promotion de l'EXI, et aussi des espaces qui viseraient à donner l'ensemble des acteurs du territoire, et par rapport à ce que tu disais Gaëlle, sur le fait d'embarquer tout un écosystème territorial, de leur faire intégrer davantage l'international, ou comme perspective dans une logique un peu d'export, ou pour faire attirer ou mieux intégrer l'international dans les pratiques quotidiennes. Voilà, c'est des expérimentations qu'on travaille avec un certain nombre d'entre vous, mais c'était juste un peu en témoignage de ce que vous disiez toutes et tous. Merci.
Merci, Dounia. Alors, je crois qu'il y a une demande de parole ici et ici.
Oui, bonjour, Michel Champredon. Dans ma vie d'avant, j'étais maire à Évreux, et maintenant je travaille comme expert international sur les questions de gouvernance locale. Ma question porte sur je vais essayer de prendre un petit peu de distance par rapport au contexte politique international, qui montre que ces derniers mois et ces quelques dernières années, dans la relation particulièrement entre la France et l'Afrique, notre pays a connu un certain nombre de revers qui nous obligent quand même à repenser notre façon d'aborder notamment l'Afrique et de repenser aussi peut-être nos politiques de coopération. Et donc ma question est la suivante. Comment le réseau de la coopération internationale, dont nous avons un bel échantillon au cours de ces deux jours, comment peut-il participer à la redéfinition d'une pensée, d'une politique, d'une démarche entre les Afriques, parce que l'Afrique, elle n'est pas unique, les Afriques et la France, de façon à apporter aussi une expertise, une pensée rafraîchie, une pensée un peu, alors je ne veux pas dire moderne, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout état de cause, comment le réseau de la coopération internationale peut occuper sa place dans la nécessité, dans la nécessaire redéfinition d'une politique entre la France et l'Afrique ?
Merci. Je propose qu'on prenne la deuxième question tout de suite pour pouvoir répondre ensuite.
Je me présente. Elage Bach, je suis élu à la mairie de Noisy-le-Sec. Je m'occupe de tout ce qui est solidarité internationale et culture de paix. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de la diplomatie parlementaire. Et je viens de participer à un panel sur la diplomatie parlementaire. Et par rapport aux collectivités territoriales, quels sont les impacts qu'ils peuvent aussi mettre en place pour mieux présenter la diplomatie française dans le cadre de la coopération décentralisée. Effectivement, c'est vrai que c'est un point qui nous touche, parce qu'on se déplace et on se dit, nous en tant qu'élus, est-ce qu'on représente la diplomatie française ou on représente les collectivités territoriales? Donc si, moi, quand je rencontre l'ambassadeur de France en Mauritanie, et il me considère comme un représentant de la diplomatie française ou bien un élu des collectivités territoriales. Voilà, je veux vraiment avoir une réponse. Et par rapport au service civique de réciprocité, c'est vrai qu'actuellement en Mauritanie, il y a beaucoup de zones où le zonage nous empêche de mettre en place ce service civique. Et ma question va s'adresser à vous, madame, parce qu'on est un peu impacté. Là, tout récemment, on devrait mettre en place un service civique de réciprocité entre des jeunes de Noisy-le-Sec et des jeunes de Dioul, où il y a un jumelage presque une trentaine d'années. Mais le problème, c'est que ces jeunes ne pourront pas aller à Dioul dans le cadre de ce, parce qu'il y a ce zonage, mais ils peuvent rester à Kaïdi, passer la nuit à Kaïdi et aller à Dioul pour travailler. Mais France Volontaire nous disait que c'est un peu difficile sur le plan logistique. Mais là, on dit que la Mauritanie est devenue le point focal de la coopération décentralisée. J'ai entendu le président Macron le dire, parce que tout, dans le Sahel, il y a des problèmes et tout a été retransféré en Mauritanie. Donc voilà, il faut vraiment que ce sujet qu'on en parle. Je vous remercie.
Merci. Alors, y a-t-il des personnes qui souhaitent répondre dans le tour de table ? Il y a une question particulièrement, je pense, large et complexe qui mériterait en soi un débat assez long. Mais
Je vais peut-être répondre au monsieur sur l'approche de la France en Afrique. Alors c'est une question difficile. Moi, je suis passé par la direction Afrique. J'ai été en poste en Afrique aussi, notamment au Soudan, en Égypte, en Éthiopie. Stéphanie aussi, tu es passé par la direction Afrique tout en retournant à l'AFD. Alors c'est vrai qu'on a... Je citais l'exemple des trois pays du Sahel et c'est vrai que ça a été, je crois, un choc. Et du coup, ça demande aussi de la réflexion, de la modestie et de la réadaptation. Comme vous le savez, l'approche du président de la République, ça a été de lancer ce qu'il appelle l'agenda transformationnel. Et cet agenda transformationnel, il passe par une approche très partenariale entre la France et l'Afrique, avec une place tout à fait prépondérante qui est donnée à la société civile. Dans ce contexte ou dans cette ligne politique, évidemment, les collectivités, elles ont un rôle éminent à jouer, parce que vous êtes porteur et accompagnateur de partenariats qui sont souvent historiques et de liens humains qui sont extrêmement forts entre vos territoires. Alors nous, au sein de la délégation que je représente, on essaye à la fois d'être souple sur nos instruments. Je parlais des situations de crise auxquelles nous devons nous adapter. Nous essayons d'accompagner cette approche partenariale. Je pense notamment, par exemple, au Sénégal ou au Maroc, où nous avons un appel à un dispositif conjoint qui est financé à part égale. C'est-à-dire que tous les projets de coopération décentralisée que nous cofinançons via ce dispositif au Sénégal ou au Maroc, le Sénégal met la même somme que la France et le Maroc met la même somme que la France. Et donc c'est ça aussi une manière d'accompagner le partenariat. Autre exemple porté par la délégation que je représente, on a cité le volontariat de réciprocité, c'est-à-dire cette capacité qu'on a à accueillir des volontaires qui viennent de pays, et notamment d'Afrique, qui sont déployés ici en France, dans les milieux associatifs, au sein de collectivités. Et donc c'est cet échange partenarial qui fait intervenir la société civile et que vous pouvez accompagner, qui est extrêmement importante. Puis dernier travail, le travail aussi qu'on effectue sur les diasporas. On a des très grandes diasporas et notamment des diasporas africaines ici sur notre territoire. Et comment est-ce que justement, notamment dans les pays dans lesquels on a connu quelques difficultés dans la relation d'État à État, comment ces diasporas peuvent recréer du lien entre du lien humain, mais qui s'appuie sur des projets, et comment ces ponts en fait peuvent nous aider à reconstruire, je dirais, une relation plus apaisée. Donc c'est pas facile, ça demande beaucoup de modestie, parce que l'Afrique effectivement elle est diverse, et dans cette diversité qui fait sa richesse, nous devons nous adapter pour construire et peut-être construire de nouvelles approches et de nouveaux modèles.
Je voulais juste rajouter un témoignage par rapport à ces partenariats qu'on peut avoir avec les Afriques, donc un témoignage concret sur un réseau qui existe en Nouvelle-Aquitaine, l'Institut des Afriques, l'IDAF, qui est soutenu par le Conseil régional, par notre réseau, le RMA de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, cet institut accompagne les collectivités. Il y a des actions d'éducation à la citoyenneté qui sont aussi soutenues par l'Agence française de développement et qui permettent de renouveler les récits sur l'Afrique, donc d'accompagner les collectivités dans cette phase de questionnement des modes de coopération qu'on peut avoir avec les collectivités africaines. Et donc, il y a tout un travail avec des acteurs du territoire ressources, les diasporas, pour accompagner ces dynamiques et renouveler la manière de faire la coopération.
Merci. Moi, je pense que je peux. Je pense que c'est une question très importante et très complexe, et que d'ailleurs, moi, je trouve très important qui peut-être qu'il devait apparaître même dans nos discussions par rapport au panel. Parce qu'il faudrait voir les choses autrement. Je pense que si on continue à réfléchir de cette façon, je ne me cache pas, ça sera toujours la même chose. Donc, je crois que c'est une question très, très importante qu'il faut étudier dans le fond même du corps du problème. Parce qu'il faudrait faire une différence entre comment l'Africain lambda réfléchit et comment l'élite africaine réfléchit. Donc, si on n'arrive pas à faire cette dichotomie, on aura toujours ces mêmes problèmes. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Quand vous faites une comparaison en Afrique, regardez aujourd'hui le niveau de développement des pays qui ont été colonisés, c'est-à-dire des pays, ce que nous disons les pays anglophones et les pays francophones. Quand vous faites la différence du niveau de développement, de facto, que dit l'Africain lambda simple? Il se dit, mais tiens, les pays colonisés par les pays anglophones sont beaucoup plus développés que les pays francophones. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Ça, c'est des faits, c'est des choses qui sont là. Donc, c'est une problématique qu'il faut étudier et essayer de comprendre. Qu'est-ce qui est à l'origine que le niveau de développement des pays africains colonisés par la France soit inférieur au niveau de développement des pays colonisés aujourd'hui par les pays anglophones? Ça, c'est la première approche. Donc, tant que la France ne réfléchit pas sur ça, la France aura des problèmes aujourd'hui pour comprendre pourquoi aujourd'hui le peuple africain, c'est-à-dire pas les élites africaines, pourquoi le peuple africain aujourd'hui n'arrive plus à gober la France. Je crois que c'est une question très complexe et il va falloir que vous, les élites françaises, essayez d'aller au-delà. Comprenez ce peuple. Parce qu'en réalité, ce n'est pas les élites françaises, ce n'est pas l'élite africaine en tant que telle qui s'oppose à la France. Non, non, non. Le peuple africain n'est pas contre le français. Il ne faut pas faire cet amalgame. C'est-à-dire, le français en tant que peuple, il n'y a pas de rejet. Le rejet qui existe aujourd'hui, c'est en réalité le mode de gouvernance de l'État français. Comment aujourd'hui le peuple africain voit ce mode de gouvernance? Donc, il faudrait aujourd'hui que les Français, les gouvernants, ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire les hommes politiques français, comprennent cet esprit qui existe aujourd'hui au niveau de ce peuple qui, en réalité, aspire aujourd'hui à ce développement. Et je crois que c'est très important, dans le cadre des relations des collectivités territoriales, qu'il n'y ait plus cette notion de condescendance, c'est-à-dire cette notion de paternalisme. C'est-à-dire, il ne faudrait pas donner l'impression aujourd'hui que la France, c'est le papa, c'est lui qui est là, tout ça là. Il faudrait qu'on l'évite au maximum. Il faut l'éviter. Parce que l'Africain, il se dit... Mais le français de Seine-Saint-Denis et le Jigenshora du département de Jigenshor,
mais ils sont au même pied d'égalité. C'est comme ça que lui réfléchit. Il se dit, ce que l'autre est capable de faire, moi, je suis capable de le faire. Donc, s'il y a cet esprit de condescendant qui existe, naturellement, il y aura un sentiment de rejet. Donc, je crois aussi, sous cet aspect-là, il faudrait que les gens y réfléchissent. Et le tout est corroboré par cette notion de France-Afrique qui, en réalité, jusqu'à présent, règne aujourd'hui dans l'esprit de cette masse africaine. Parce qu'en son temps, les gens voyaient les élites africaines s'enrichir au dos du peuple africain, avec la complicité d'une certaine élite française qui, dans le cadre d'une soi-disant France-Afrique, a certainement, avec la vision, peut-être, je ne dis pas que c'est ça, hein, mais c'est la vision, je vous parle d'une vision globale de ce qui existe de façon élémentaire. C'est-à-dire, il faut, si on réfléchit de façon élite, on comprend, mais si on réfléchit de façon élémentaire, comment l'Africain, ou bien comment moi, en tant que Sénégalais, je réfléchis. Donc, de là, c'est sûr que nous allons transcender pas mal de choses. Au Sénégal, il existe un mouvement qui dit France dégage. Mais ce mouvement qui dit France dégage ne s'adresse pas au peuple français. C'est ça la réalité. Il ne s'adresse pas au peuple français. Ce mouvement qui se dit aujourd'hui, il faut aujourd'hui quitter le franc CFA. Réfléchissez, il n'est pas contre le peuple français. Pourquoi ce mouvement pense aujourd'hui qu'on doit pouvoir quitter le franc CFA? Pourquoi aujourd'hui ce mouvement pense à une certaine souveraineté? Donc tout ça, c'est un questionnement qu'il faut aller dans le fond du dossier et comprendre et que les élites françaises acceptent leurs responsabilités par rapport à ce qui est en train d'arriver aujourd'hui en Afrique, ce sentiment de rejet. Il y a une responsabilité partagée et elle est beaucoup plus grande aujourd'hui au niveau des élites françaises qu'au niveau des élites africaines. Parce que pour nous, comment réfléchit l'Africain? Il se dit, si ce n'est pas la France, mais c'est les autres pays, parce que le monde, il est globalisé maintenant. Donc les gens ont tendance à aller vers d'autres pays. Donc c'est à la France aujourd'hui d'accepter cet état de fait, de se reconstruire et de revoir aujourd'hui sa façon de faire la politique. Parce qu'on ne le voyait pas, la France a toujours été un pays de diplomatie, de fraternité, ça tout le monde le reconnaît. Mais il faudrait éviter que les Français sortent de cet esprit de paternalisme. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Si vous l'étudiez sous cet angle, en ayant l'esprit tranquille, en comprenant le peuple africain, je vous assure, la France va reprendre sa part qui lui revient de droit au niveau du continent africain. Merci beaucoup.
Je vais juste peut-être aussi, si on revient au niveau des collectivités territoriales et de cette relation qui doit changer, moi je crois surtout, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la réciprocité. Donc l'enjeu est que chacun dans ce partenariat et donc ces actions internationales de coopération des collectivités territoriales, chaque partenaire apporte sa pierre à l'édifice et que ce soit bien évidemment à la fois légitimé et dit. Et je pense que cette réciprocité, elle existe dans les deux sens. C'est-à-dire que lorsqu'il y a quelque chose qui est bien fait aussi par une collectivité française, il faut que ce soit exprimé à la population locale, de montrer qu'elle est l'appui, et vice-versa. Lorsqu'en France, on a cet appui, eh bien, il faut savoir le dire aussi. Évidemment, parfois, ça peut être un peu déroutant d'avoir d'une collectivité plus petite dans un pays lointain une solution qui est apportée. Mais vous en avez mentionné tout à l'heure sur ce sujet de... c'était d'air conditionné hein, qui peut passer du chaud au froid, et donc on voit comment une petite collectivité qui a une solution elle peut l'apporter. Je pense que c'est vraiment cet enjeu de redevabilité et de réciprocité qui fait la différence demain, mais c'est dans les deux sens, c'est 50-50 et il faut que chacun fasse le pas. Et ça, c'est un enjeu important, et c'est là où on remettra à égalité la relation Afrique-France. Ça, c'était un commentaire personnel. Maintenant, sur votre exemple, monsieur, ce que je rebondis parce que vous étiez un élu d'une collectivité et vous êtes maintenant expert international. Et c'est là aussi, quand je vous parlais tout à l'heure d'Expertise France, on a besoin de vous aussi en appui, puisqu'on a ces programmes d'experts internationaux, techniques internationaux qui sont positionnés auprès de collectivités, d'incubateurs, de tout type de structures en fait, hein, dans les pays dans lesquels nous intervenons. Et ça, c'est à la fois porté par le ministère des Affaires étrangères et aussi par Bercy. C'est Expertise France qui les met en œuvre. Je vous en prie, si vous avez dans vos équipes des personnes qui sont, voilà, où vous voulez nous signaler qu'ils ont une expertise particulière et qui pourrait être vraiment voilà, important de les déployer pendant un temps dans certains territoires, sur certains programmes, eh bien, n'hésitez pas à nous faire passer ces noms. On en a discuté tout à l'heure avec la ville de Marseille sur une experte. Voilà, ça peut être mobilisé en perlé, ils peuvent être mobilisés sur du plein temps, sur des programmes de 2 ans. Mais on a besoin aujourd'hui de cette force vive pour pouvoir être justement beaucoup plus dans la réciprocité, beaucoup plus dans l'apport et dans l'impact terrain. Et ça, c'est, voilà, ça sera peut-être le game changer.
Merci beaucoup. Merci pour ces regards sur les questions soulevées. Je me permets simplement d'ajouter que nous avions travaillé là-dessus aussi par rapport, enfin, sur la question de la relation entre l'Afrique et la France, et qu'on avait aussi soulevé le fait que les collectivités territoriales peuvent être un fer de lance de la façon dont on repense cette relation. Donc une fois encore, un sujet qui est particulièrement intéressant, et quand on parle de singularité de l'action internationale des collectivités, c'est aussi la capacité à faire peut-être un peu différemment et à apporter de l'innovation à d'autres façons de faire, enfin à interroger. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons très régulièrement à Cités Unies France. Au regard de l'heure qui tourne et du buffet qui va bientôt nous attendre, je vous propose que nous en arrêtions là, ce qui n'empêche pas de poursuivre pendant le déjeuner et pendant les sessions qui vont suivre les questions qui ont été soulevées ici.